Voilà, je m'appelle Jean Parc. Je suis pasteur de l'église évangélique de Vendeuvre, les Nancy. Je ne sais pas si vous connaissez la région de Nancy. Je viens de la Lorraine. Cela fait maintenant 12 ans que je suis pasteur là-bas. Mais avant, j'étais aussi en Alsace, c'est-à-dire j'étais pasteur près de Mulhouse. C'est pour ça que je connais bien David et surtout ses parents, voilà, que j'ai bien connus. Et j'étais là-bas pendant 8 ans. Et c'est pour ça que je me sens bien quand je reviens en Alsace. J'ai l'impression de revenir chez moi. Alors, en tout cas, merci pour votre accueil. Je suis marié avec une Laetitia. Ce n'est pas cette Laetitia-là, mais c'est une autre Laetitia qui est franco-suisse. Et puis, nous avons eu deux enfants. La première fait ses études à Strasbourg, et puis la deuxième, maintenant, fait ses études à Paris. Voilà, donc on est tout seul, comme un vieux couple, maintenant. C'est vrai que quand je viens dans une nouvelle église, je me dis, ben, c'est vrai que je ne connais pas trop bien cette église, les attentes non plus. Mais finalement, le Seigneur nous dit, ben voilà, hein, si nous cherchons, hein, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, dans Jérémie 29, que nous puissions vraiment avoir ce sentiment ardent, ce désir ardent pour rechercher la grâce, hein, comme nous avons parlé ce matin, et aussi pour être édifiés par la parole de Dieu. Amen. Voilà, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous, d'après la parole de Dieu. Ce matin, j'ai choisi une histoire bien connue. C'est l'histoire d'un aveugle qui a été guéri par Jésus-Christ. Bon, il y a eu plusieurs aveugles. Mais c'est dans Marc, chapitre 10, à partir de verset 20, 46 à jusqu'à 52. Je vais lire un des passages. C'est l'histoire de Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fille de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Voilà jusqu'ici notre lecture. Ça va jusqu'à maintenant? Vous connaissez bien cette histoire. Mais c'est bien de réentendre les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle est ce que Jésus a accompli sur la terre. En fait, la scène se passe à la sortie de Jéricho, la ville conquise par Josué. Et nous y voyons ici un aveugle qui s'appelle Bartimée, ce qui signifie fils de Timée, Bartimée. Comme chaque jour, il est installé au bord du chemin, à la sortie de Jéricho, pour mendier, pour demander l'aumône. C'était là que passaient tous ceux qui se rendaient à Jérusalem. Donc, il avait bien choisi l'endroit pour demander de l'aumône. Mais ce jour-là, il remarque une chose inhabituelle. Il y a une foule immense. Tout d'abord, il est super content il va gagner plus d'argent. Et puis, il se demande, mais pourquoi il y a autant de monde? Et il lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens lui ont répondu, ben, ce tumulte, c'est parce que Jésus de Nazareth qui passe sur ce chemin. Et là, en apprenant la nouvelle, il est très enthousiaste, car il avait déjà entendu de sa renommée. Il avait déjà entendu que ce Jésus avait pardonné les pécheurs, il avait guéri les lépreux, il avait même permis aux aveugles de voir et aussi aux sourds d'entendre. Donc ça lui concernait vraiment. Et il avait même entendu que les démons étaient chassés et qu'il apportait la bonne nouvelle à tous. Après avoir entendu toutes ces nouvelles, il a dû se dire, ce gars-là, c'est pas un gars, c'est pas n'importe quel gars, mais un gars qui a été promis. Puisque il s'est sûrement souvenu de cette parole qui disait que alors s'ouvriront les yeux des aveugles, d'après Ésaïe 35, s'ouvriront les oreilles des sourds. Voilà ce que le Messie tant attendu allait accomplir. Et en entendant tout ce que Jésus avait déjà accompli sur la terre et en Israël, il a dû se dire, Jésus, oui, c'est lui le Messie, le Christ qu'on attendait tant. Et donc, voilà, il était impatient de le voir, mais il ne pouvait pas jusqu'à maintenant parce qu'il n'avait pas la bonne santé, surtout ben, avec sa cécité, il ne pouvait pas aller le voir. Il avait besoin d'être de quelqu'un pour aller le voir. Mais ce jour-là, en tout cas, on lui apprend que ce Jésus va passer juste là. Et c'était une opportunité inouïe. Alors, en entendant le bruit de la foule et le passage de Jésus, il crie très fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il criait tellement fort que les autres le reprenaient et lui sûrement disait, « Tais-toi, il n'y a pas que toi ici, tu nous déranges !» Enfin, ça c'est moi qui dis, hein. Mais ils ont dû vraiment le reprendre sévèrement. Mais il s'en foutait de toutes ces remarques parce que lui, pour lui, rencontrer Jésus, c'était une question de vie ou de mort. Alors il crie encore de plus fort, « Fille de David !» Aie pitié de moi. Tout le monde le critique, tout le monde le reprend, mais lui, il s'en fiche. Et Jésus entend, heureusement, son cri. Il s'arrête et demande à ses disciples de l'appeler, de le ramener. Jésus lui demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et Bartimée répond, « Mon maître, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et transformé, il suivit Jésus sur le chemin. Voilà le résumé un petit peu de cette histoire bien connue. Je reviens encore dans le contexte de Bartimée. La Bible nous rappelle que la société devait prendre soin des plus faibles, des veuves, des orphelins, même des étrangers, des handicapés. D'après la Bible lévitique, les Israélites devaient protéger, devaient subvenir à leurs besoins. Dans Lévitique 19,14, il est dit, « Tu ne maudiras point un sourd. » Apparemment, il y a beaucoup de gens qui se moquaient des sourds. « Et tu ne mettras pas devant un aveugle quelque chose qui puisse vraiment le faire tomber. » Apparemment, les gens mettaient souvent aussi, hein. Les hommes sont méchants. Les hommes vraiment sont méchants. Les hommes, ils mettaient quelque chose pour faire tomber les aveugles. Donc là, il veut les protéger, d'après cette parole de Lévitique 19. « Mais tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Ce commandement et d'autres commandements vraiment précisent que voilà, toutes ces personnes vulnérables devaient être protégées par le peuple. Mais Bartimée, lui, ne recevait visiblement pas d'aide puisqu'il était contraint de mendier pour survivre, assis au bord du chemin. Et quand donc Bartimée apprend la nouvelle de Jésus de Nazareth, et là, il y a une réaction immédiate, il crie très fort, sans aucune gêne. Qu'est-ce qui se serait pour nous aujourd'hui qui vivons au XXIe siècle, crier à Jésus, c'est quoi? Ce serait? C'est une question. Prier, voilà, c'était la prière. Pour nous aujourd'hui, crier à Jésus, c'est la prière. Et il crie fort pour se faire entendre. Et il savait que ce Jésus n'était pas un simple guérisseur. Son cri était une véritable confession de foi, parce qu'il l'appelle « fils de David ». Pourquoi cette mention est une confession de foi, comme quoi il proclame que Jésus est le Christ, le Messie? Tout simplement parce qu'il savait très bien que le Messie tant attendu, le Christ tant attendu, était de la postérité de David. Et donc, comme il était un descendant du roi David, en proclamant « fils de David », il proclame aussi que ce Jésus est son sauveur, le Messie tant attendu. C'est marrant parce que Bartimée, qui était aveugle, voit la vérité. Alors que, paradoxalement, il y avait plein de chefs religieux à l'époque qui devaient être un leader spirituel de tout un peuple, mais eux, malgré tous ces miracles réalisés, malgré toutes ces prophéties réalisées par les œuvres de Jésus, ils ne réalisaient pas, ils ne voyaient pas que Jésus était le Messie attendu. C'est paradoxal. Voir les yeux ne garantit pas de voir avec le cœur. Et Bartimée pouvait voir avec le cœur. Quand la foule le réprimande, il prend encore le courage pour crier encore plus fort. Souvent, quand on vous réprimande, on écoute et puis on essaie de diminuer la voix. Non, lui, il fait le contraire, parce que pour lui, c'était une question de vie ou de mort. Et surtout, il insiste. J'aime bien cette insistance. Est-ce que quand vous priez, est-ce que vous priez avec insistance jusqu'à ce que le Seigneur vous réponde ou pas? Jésus, vous savez, nous enseigne l'importance de l'importunité dans la prière. Comme dans la parabole, dans Luc 11, nous voyons Jésus parler de cette parabole en disant que, voilà, il y a une personne qui reçoit des invités et puis il n'y avait plus de pain. Alors, il va aller voir chez un ami pour lui demander du pain. Pourtant, cet ami, il était couché, sa famille était couchée, il ne voulait pas se lever pour lui donner à manger, mais au verset 8 et 9, il dit, « Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez. » Et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Alors, malgré toutes ces promesses, pourquoi alors on ne prie pas, à votre avis? Enfin, j'espère que vous priez, mais pourquoi les gens ne prient pas quand même? Parce que on n'a pas le temps. En ce moment, surtout, on a un planning de ministre. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une bonne habitude de prière. En général, moi, quand je prie, c'est toujours le matin. Quand j'arrive au bureau, voilà, « Ah Seigneur, encore la journée commence avec toi. » Et je fais la prière. Pour ma maman, c'est le matin et le soir. Et d'ailleurs, souvent, elle habite à Paris, donc j'y vais rarement. Dans l'année, peut-être 3 voire 4 fois dans l'année. Tout ça aussi parce que j'ai pas mal de choses à faire à Paris aussi, donc je la vois brièvement. Donc je dors chez elle peut-être une nuit, voire deux. Un jour, elle avait toujours ce temps de prière qu'elle mettait de côté, et je ne sais plus, c'était à 9h ou 10h du soir. Donc je rentre à la maison et puis là elle dit, ah c'est mon temps de prière, donc je rentre dans ma chambre de prière. Et je dis, mais maman, je ne viens pas très souvent. je suis quand même ton fils. J'aimerais avoir une communion aussi avec toi, une communion fraternelle. Donc, tu peux laisser ce temps de prière de demain, quand je ne serai pas là. Ah non, mon rendez-vous, c'est mon rendez-vous. J'ai dû attendre encore 1 heure. Et on a dû parler jusqu'à 2 heures du matin, je pense. Oui, c'est bien d'avoir ce temps de prière, comme ça fixe à l'avance. Parfois, on ne prie pas parce que on ne met pas non plus la priorité à la prière. Parfois, les gens disent, bah, je ne prie pas, oui, je suis en pensée avec le Seigneur. Mais c'est vrai, c'est aussi vrai. Parce que même si on ne prie pas, le Seigneur aussi sait ce dont nous avons besoin. Et je me souviens combien de fois j'ai été sauvé dans ma vie. J'aurais pu mourir d'un accident de voiture. Un jour, voilà, le Seigneur m'a protégé. Le bus passait devant mon visage parce que je n'avais pas vu le bus. Combien de fois aussi j'ai pu mourir en faisant de l'escalade. J'ai failli tomber vraiment et j'avais plus de cordes. Ouais, mais le Seigneur m'a sauvé. Quand j'ai sauté, espérant d'avoir une prise, j'avais une prise. Et oh, alléluia, sinon j'étais mort. Voilà. Combien de fois le Seigneur m'a protégé C'est vrai, je n'avais pas demandé cette protection, mais le Seigneur était là. Mais, d'après cette parabole, Dieu aimerait qu'on prie, qu'on demande, qu'on frappe, qu'on ouvre davantage avec une action, qu'on ne soit pas paresseux. D'ailleurs, Proverbe dit, « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il est trop fatigué pour le ramener à sa bouche. » N'est-ce pas? Ça, c'est vraiment le vrai paresseux. Il a ce désir, on a ce désir de prier, mais pff, oh, mon corps est trop faible. Ou je suis un peu paresseux pour prier, n'est-ce pas? Bartimée refuse cette paresse. Pour Bartimée, il n'y a pas d'excuse pour prier. Il demande, il crie fort même. Et Jésus l'écoute, l'entend, il l'appelle. L'aveugle manifeste vraiment une foi spectaculaire. Au verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Je vais prendre mon manteau. Hop. C'est le manteau de mon père. C'est assez précieux. Il nous a quittés il y a 3 ans, mais en tout cas, ça me tient chaud. Ce manteau est très précieux pour moi. Mais vous savez, pour Bartimée, le manteau était plus qu'un simple vêtement. C'était un bien essentiel qui servait de couverture la nuit, mais aussi qui servait de marqueur social et professionnel, c'est-à-dire que on pouvait, à travers son manteau, parce que le manteau posé ou porté d'une certaine manière, on pouvait l'identifier comme un aveugle dépendant. On pouvait voir. Ce manteau est vraiment été essentiel pour demander l'aumône aux autres. Et ça signalait vraiment son statut de mendiant. C'était son seul bien, c'est sa seule possession la plus importante, symbolisant sa condition de pauvreté et de dépendance. Et là, dans la Bible, il dit, il jette son manteau. Et ce verbe en grec, apobalo, qui signifie « jeter loin », c'est pas juste « il a plié à côté en disant « garde ça pour moi », non, il a complètement jeté. Il a complètement jeté en disant « J'abandonne mon identité de mendiant. J'abandonne mon passé. Je sais maintenant que je vais aller voir Jésus et il y aura quelque chose qui va se passer. » Il va courir vers Jésus. il va courir vers Jésus avec joie, avec espérance. Le manteau était tout pour lui, mais maintenant, il laisse tout ça derrière lui. Jetant franchement, voilà, Bartimée est en train de dire à Dieu, je n'aurai plus besoin de cette ancienne vie. Il manifeste en tout cas sa volonté de changer d'identité. Il ne veut plus être mendiant. Il ne veut plus être infirme. Il veut sortir de ce rejet, de cette amertume, de cette crainte des hommes ou même du jugement des autres. Et il a cette foi agissante. C'est incroyable. Vous savez, la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend, c'est la foi, c'est la parole de Dieu. Il avait déjà entendu pas mal de choses sur Jésus, et puis la foi agissante était là. Pas la foi, comment on dit ça, statique. Hein? Il n'a pas juste écouté, mais il a cru et il a agi. Notre foi devrait être plus concrète. Et là, on pourrait réfléchir. Qu'est-ce qu'on devrait jeter, nous aussi, pour expérimenter cette relation avec le Seigneur? Peut-être parmi vous, parmi nous, il y a des péchés qu'il faudrait abandonner, la paresse ou l'égoïsme, la foi indécise, le confort personnel. Je me suis bien là, je suis dans mon zone de confort. Les soucis inutiles, ou les malédictions, ou l'incertitude de l'avenir qui nous apporte la crainte, ou le passé tout simplement, ou bien peut-être un lien spirituel, un lien occulte qui vous lie à rester avec l'ennemi. J'aimerais apporter un témoignage d'un jeune que j'ai connu dans mon église. C'est l'histoire d'un jeune homme dont la mère pratiquait la cartomancie et les choses occultes comme profession depuis longtemps. Donc elle vivait de ça. Hein. Il a grandi donc dans cette ambiance. Un jour, il entend l'évangile parce que durant toute sa vie, il a vécu pas mal de persécutions, pas mal de malheurs. Et il entend l'évangile par le témoignage d'une camarade de classe. Il commence à s'intéresser à la foi chrétienne. Cependant, plus il s'engage dans cette nouvelle foi, plus l'ennemi s'acharne contre lui. Il disait, tu sais Jean-Haut, ma maman a reçu un certain don spirituel. Mais tu sais, ayant grandi dans cette ambiance, je sais que j'ai reçu plus qu'elle, ce don occulte. Parfois, j'entends des voix. Et donc, plus il croit en Dieu, il avance avec le Seigneur, plus le diable se manifeste dans sa vie. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris une canne. Il marche avec une canne. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai du mal à marcher maintenant. 2 semaines plus tard, il marche avec 2 cannes. 1 mois plus tard, il ne pouvait plus marcher. Pendant des mois et des mois et des mois. Alors on le prenait, on allait chez lui. Heureusement, il n'était pas trop lourd. Donc on pouvait le prendre avec nous, mettre dans la voiture, on allait à l'église ensemble, chaque dimanche. On priait beaucoup pour lui. Mais on ne savait pas, et puis on l'a aidé à aller chez le médecin pour être diagnostiqué. Les médecins ont trouvé... Non, en fait, ils n'ont rien trouvé. Il lui a fait faire plein d'examens, mais finalement, pour dire qu'ils ne savent pas. Et puis, parce que je ne savais pas qu'il était dans l'occultisme. Il n'avait pas ouvert son cœur. Et après ceci, je découvre de plus en plus sa vie personnelle, la vie de sa famille. Et je lui dis, écoute, moi je suis convaincu que vraiment c'est l'œuvre du diable qui te fait bloquer physiquement. Alors, il dit, Oui, mais je veux bien être guéri. Je veux bien que tu pries pour moi. Et j'ai dit, écoute, dans notre église, on pratique aussi l'onction d'huile. En général, je fais ça avec quelques anciens dans mon bureau, mais je veux bien faire participer toute l'église pour cette œuvre, pour vraiment qu'on prie pour toi, qu'on fédère autour de toi pour ta guérison. Elle dit, ok, on prie ensemble un dimanche matin. Ah, il y avait une super ambiance. Je me dis, waouh, le Saint-Esprit, on sent le Saint-Esprit agir. Et finalement, il n'a pas été guéri. Waouh. Je croyais tellement que voilà, le Seigneur est tellement puissant, etc. Et puis le lendemain, Hugo me téléphone. Jean-O, oui, je marche. Hein? Tu marches? Oui, je marche. Attends, j'arrive tout de suite. Même moi, je ne croyais pas, parce que je l'ai vu pendant des mois, pendant 8 mois, sur une chaise roulante. Et puis, quand je l'ai vu, il était en train de marcher, normalement. J'ai dit, oh, waouh, waouh. Et puis, le dimanche suivant, hein, vous pouvez imaginer l'euphorie dans l'église, en le voyant, parce qu'on était solidaires. Et puis, après avoir, je veux dire, entre guillemets, raté la guérison le dimanche, je me suis dit, mais ça aurait été bien si il était guéri le dimanche matin, tout le monde aurait été super content. Mais en fait, je me suis dit, ben, après, entre guillemets, l'échec de guérison, j'ai dû téléphoner à tout le monde en disant, voilà, on a un jeune qui a vraiment un problème avec l'occultisme et il a besoin de prières pour la guérison. Et puis, vous pouvez imaginer, hein. Le lendemain de la guérison, j'ai dû encore téléphoner à tout ce monde en disant « c'est pas la peine de prier maintenant, c'est bon, il est guéri. » C'est vrai, Dieu est puissant, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Souvent, on ne croit pas parce qu'on n'a pas vu, mais vous savez, Bartimée, il n'a pas vu non plus les miracles. Mais sans voir, il avait déjà cru. J'avais un peu honte quand il m'a dit que j'étais guéri. Je me suis dit, oh là là, il a vraiment guéri ou pas, hein? Je me suis quand même posé la question. Oui, Dieu est un Dieu puissant, toujours vivant, réalisant les mêmes miracles, les mêmes œuvres, même encore aujourd'hui. Je me rappelle d'ailleurs à Fastat, il y a une dame qui est venue aussi me voir en disant, Jean, j'ai quelque chose de personnel à te partager. Je dis, oui, qu'est-ce que c'est? Tu sais, je souffre de perte de sang depuis 20 ans, plus de 20 ans. Et je prie pour cela tous les jours pour que je sois guéri. Mais le Seigneur ne m'a pas guéri. Mais cette semaine, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma prière, j'avais la foi que si tu pries pour moi, je peux être guéri immédiatement. Il dit, ok, d'accord, je prie, viens, dans mon bureau, voilà, j'appelle encore un ancien, on va prier ensemble, puis on impose la main en disant que Seigneur, oui, par tes meurtrissures que nous avons eu la guérison, tu peux faire ce que tu peux faire. Guéris-la, s'il te plaît. Juste une simple prière. On n'a pas fait des choses extraordinaires. Et puis j'ai oublié carrément cette histoire. Parce que chaque dimanche matin, à l'époque, je priais tellement pour des différentes personnes, on était à peu près 150, donc je priais beaucoup. Et puis, 6 mois plus tard, je me suis dit, ah oui, mince, en fait, toi, je t'avais prié, enfin, j'avais prié pour toi, et qu'est-ce qui se passe? Elle me disait, tu sais, depuis que ta prière, j'étais immédiatement guéri. Mais pourquoi tu ne me partages pas ce genre de bonnes nouvelles? Ouais, je suis un peu timide. C'est bien de partager avec tout le monde toutes ces choses que le Seigneur fait, même maintenant, pour encourager les autres frères et sœurs. Oui, Dieu est encore vivant. Dieu continue à faire ses œuvres. Bien sûr, il y a eu des prières que le Seigneur n'a pas exaucées. Je prie toujours en disant que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Oui, Dieu a agi en son temps. Et en tout cas, pour les deux cas, ben, ça correspondait bien. Pour voir de manière assez rapide tous ces œuvres puissantes de Dieu. Après la transformation, la guérison, Dieu l'appelle, en tout cas il se lève, il vient, il demande à voir, et la guérison arrive. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et la foi de Bartimée qui l'a sauvé, oui. Comme cette femme qui me disait, j'ai la foi que si tu pries pour moi, je peux être guéri. Bartimée avait déjà dans son cœur la foi pour être guéri, et le Seigneur a juste, voilà, accompli, ajouté, confirmé sa foi. Son miracle était total, guérison physique, donc il recouvre la vue, mais aussi guérison spirituelle et sociale. Il abandonne son identité de mendiant, de pauvreté, mais maintenant il veut suivre Jésus, il veut être le disciple de Jésus pour suivre celui qui est maintenant son maître. Oui, parce qu'il est devenu une nouvelle création. L'ancienne sont passées. Comme Bartimée, donc, faisons confiance à celui qui peut nous guérir de nos cécités spirituelles, afin qu'il illumine les yeux de notre cœur, votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. J'aimerais conclure. Chers amis, chers frères, chères sœurs, l'histoire de Bartimée, cet aveugle criant de Jéricho, résonne puissamment avec notre deuxième dimanche de l'Avent. Jésus est venu il y a plus de 2000 ans. Et vous savez qu'on est encore dans l'attente puisqu'il reviendra. Ce matin, nous avons vu qu'attendre Jésus n'est pas un acte passif. Attendre Jésus, c'est un cri de foi. Attendre Jésus, c'est un acte de volonté qui rejette la paresse et le confort stérile. Tout comme Bartimée a jeté son manteau, symbole de son ancienne identité, de sa dépendance et de sa fausse sécurité, l'Avent nous appelle, nous aussi, à identifier et à rejeter ce qui nous aveugle, le péché, la paresse, l'égoïsme, la fausse confort. Notre foi ne doit pas être vague ou indécis, mais concrète et agissante, comme Bartimée. Approchons-nous de Dieu avec l'importunité de celui qui sait qu'il est en face du Maître qui peut tout. Alors que nous avons allumé cette deuxième bougie, lumière, un symbole de paix, qui vient. Engageons-nous cette semaine à marcher concrètement à la suite de Jésus, en abandonnant nos vieux manteaux, en demandant, en cherchant, en frappant, que nous puissions recevoir de lui la vue pour notre cœur et la force d'être ses disciples transformés. Alors recevons la bénédiction de Dieu pour cette nouvelle semaine d'avant. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur car tu es un Dieu qui nous écoute. Tu es un Dieu qui entend nos cris, nos douleurs, nos souffrances. Aide-nous vraiment à privilégier cette relation intime avec toi aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à te chérir davantage, à t'adorer davantage, quoi qu'il arrive, à mettre toi comme priorité, notre priorité, pour mieux entrer en relation avec toi, Seigneur, comme Bartimée a essayé de le faire. Et qu'on ne devienne pas des gens passifs, mais des gens actifs pour rechercher, pour prier, pour désirer davantage, pour ouvrir, frapper, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aussi à voir, durant cette dimanche de l'Avent, cette paix que tu nous accordes, cette joie que tu nous accordes, cette espérance que tu nous accordes. Oui, tu es déjà venu il y a plus de 2000 ans, mais tu reviendras aussi un jour. Nous sommes toujours dans l'attente de te voir en vrai, soit de notre durant notre vivant, soit après notre mort. Mais en attendant, Seigneur, nous sommes toujours dans l'attente. Et aide-nous à être fidèles, comme Bartimée qui a attendu et qui t'a rencontré. Aide-nous vraiment des gens qui te rencontrent et qui expérimentent et qui, à la fin, te suivent fidèlement pour devenir des vrais disciples. Et pour cela, nous avons besoin de ton Esprit Saint, ta puissance, ta vérité. Aide-nous à être équipés de toutes ces choses pour avancer parce que par nos propres forces, nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de ton Esprit Saint, avec ta protection, avec ton accompagnement, nous pouvons cheminer ensemble, avancer pas à pas. Même si, c'est vrai que ce matin, j'ai entendu pas mal de prières de malades, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Et ta houlette, ton bâton nous rassure. Nous n'avons rien à craindre lorsque tu es avec nous. Que tu nous accordes aussi la paix intérieure et une grande confiance à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.